Vous écoutez Radio France Internationale, bienvenue si vous nous rejoignez, il est 5h30 ici à Paris.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin, une demi-heure consacrée à l'actualité du continent africain. On débute avec le journal et le Soudan. Les militants pro-démocratie qui tentent de documenter au mieux la situation sur le terrain. Ils font remonter des informations, certes parcellaires, mais qui éclairent les violences dont sont victimes les civils. Dernier exemple dans ce journal à propos d'exactions des forces du général Hemeti dans l'état d'Al-Jazeera. On va entendre la prise de parole de l'église catholique tanzanienne. Après le meurtre d'un cadre de l'opposition, elle s'inquiète du climat général en Tanzanie, même si les autorités disent ne rien avoir à voir avec ce crime. Autre prise de parole ce matin, celle de l'opposant comorien Mohamed Ali Swali, qui revient sur l'agression au couteau dont a été victime le président Azali Assoumani. À Madagascar, l'autorité électorale qui donne une semaine de plus aux candidats aux municipales pour se manifester. Et puis le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de foot qui aura bien lieu en février prochain au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Et ce journal qui débute donc au Soudan, on fait le point sur la guerre entre généraux rivaux, entre armées régulières et paramilitaires qui comptent chacun sur des milices alliées. La semaine dernière, les combats se sont intensifiés à Khartoum, dans ses villes sœurs, mais aussi à El Fasher, au Darfour, dans l'ouest, et puis au Kordofan, au sud du Soudan. Quant à l'état d'Al Jazeera, qui est collé juste au sud de Khartoum et qui est aux mains des paramilitaires FSR depuis décembre, il a été à nouveau le théâtre de violences qui visent les civils, qui les pousse à un exode massif. Plusieurs villages de l'est et du nord d'Al Jazeera ont été attaqués et pillés par les forces de soutien rapide. Ouda Ibrahim.
Selon un communiqué du comité de résistance de la région d'Abu Kouta, situé à l'est de l'état d'Al Jazeera, 40 civils au moins ont été tués dimanche dernier dans le village de Kouznaka lors de l'attaque des FSR. Selon la même source, 20 autres morts ont été enregistrés dans le village d'Andab, 2 à Wad El Gatra et 1 mort à Temboul, mais il n'existe aucun bilan complet de victimes. Près de 50 villages auraient été attaqués et pillés durant la semaine dernière dans Al Jazeera, selon plusieurs sources. Le quotidien en ligne Soudan Tribune rapporte que les FSR détiennent 17 civils dans l'un de ces villages et réclament des rançons pour les libérer. Des sources locales ont estimé le nombre de têtes de bétail pillées à 5000. La récolte a été également pillée. Au chef-lieu d'Abu Kouta, la banque agricole, le centre de la police et le marché ont été pillés et détruits. Les habitants ont été totalement dépouillés et obligés, sous la menace, de prendre le chemin de l'exode.
C'est l'une des situations les plus horribles dont j'ai été témoin, commentaire à son retour du Soudan de la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population. Elle qui a 3 décennies d'expérience dans le domaine humanitaire. Lui est scandalisé par le manque d'argent en faveur d'Haïti, plus particulièrement de la mission internationale de police menée par le Kenya qui peine sur le terrain face aux gangs armés en Haïti. Antonio Guterres juge absolument inacceptable que les contributions financières soient si faibles. Le secrétaire général de l'ONU explique à nos confrères de l'agence France-Presse que quand il y a une guerre, on trouve de l'argent pour toutes sortes de choses. Quand il y a une crise financière et que des banques doivent être sauvées, on trouve de l'argent. Et donc, selon lui, on devra en trouver pour cette mission policière menée par le Kenya en Haïti. En Tanzanie, c'est la hiérarchie catholique qui s'alarme de la situation politique et sécuritaire dans le pays d'Afrique de l'Est. Les évêques pointent du doigt la recrudescence des enlèvements et des morts suspectes de membres de l'opposition. La dernière en date, Ali Mohamed Kibao, ce cadre du grand parti d'opposition Tchadema, retrouvé mort il y a une quinzaine de jours après avoir été enlevé. Les autorités pointent des gangs criminels, mais la situation inquiète donc l'Église catholique, surtout qu'elle intervient après une vague d'arrestations visant des militants de Tchadema un peu plus tôt cet été. Le père Charles Kitima est porte-parole de la Conférence des évêques de Tanzanie.
C'est une situation politique inédite comme nous n'en avons jamais connu auparavant. Des personnes ont disparu et nous ne savons toujours pas où elles sont. D'autres ont été tuées et leurs corps n'ont pas été retrouvés avant plusieurs jours. C'est comme si les groupes criminels étaient plus puissants que les citoyens. Alors les gens se demandent où est le gouvernement et que pouvons-nous faire? Les évêques de Tanzanie sont donc inquiets car la volonté de Dieu de protéger la vie des citoyens n'est pas garantie. Les évêques ont donc appelé à la fin de ces violences car il s'agit d'une violation de la paix et les gens sont intimidés, ce qui n'est pas une bonne chose. Ces groupes criminels doivent être connus et traduits en justice conformément aux lois tanzaniennes. La présidente a déclaré sur Twitter qu'elle souhaitait qu'une enquête soit menée par les forces gouvernementales et nous avons besoin d'enquêteurs indépendants, non pas des forces de sécurité soupçonnées de ces violences. Voilà pourquoi nous sommes inquiets.
Propos recueillis par Christina Okello. En 1976, il y avait une route dans le cratère du Ngorongoro. Aujourd'hui, il y en a 29. La colère, le message porté à Paris par des Maasai, riverains de ce célèbre parc national du nord de la Tanzanie. Des Maasai en colère car les autorités en ont expulsé certains d'entre eux pour protéger l'environnement, disent-elles, alors que des centaines de milliers de touristes déferlent dans le même temps chaque année sur les lieux, sur le Ngorongoro. L'avocat du peuple Maasai est aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris pour plaider le retour des Maasai et de leurs pratiques ancestrales de pâturage, seule manière selon lui de conserver l'équilibre faune, flore, humain. On en parle dans le journal de 6h, heure de Paris. Dans le journal Afrique de 6h30, heure de Paris et de Goma, 5h30 de Kinshasa, on évoquera la visite dans la capitale congolaise du patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. Il a vu hier la ministre des Affaires étrangères. Il doit voir aussi des responsables de la mission de la SADC au Nord Kivu, dans l'Est de la RDC. Les détails donc avec Passion Ligaudi dans une heure et d'ores et déjà sur l'appli RFI et notre site le www.rfi.fr. Elle entend faire acte de candidature à sa propre succession, la Nigériane Gozi Okonjo-Iweala, à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Aucun autre candidat ne s'est pour l'instant déclaré. Il y a, il faut dire, une grande incertitude avec les élections américaines à venir, puisqu'une victoire de Donald Trump pourrait jouer en la défaveur de la Nigériane. À la fin de son précédent mandat, en 2020, Donald Trump avait bloqué la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la direction générale de l'OMC. Le Nigeria et le président Bola Tinubu au chevet des sinistrés, des humanitaires et des secouristes à Maïdougouri. Il y était hier, une semaine après les importantes inondations dans la grande ville du nord du pays, après la rupture d'un barrage. Il y a 40 morts au moins, 40% de la ville sous l'eau, plus de 400 000 déplacés, on en parle. Avec notre invité Afrique ce matin, dans deux heures sur RFI, Mohamed Falik Fall de l'ONU.
RFI à Moroni, 103 FM.
Aux Comores, le président Azali Assoumani n'a toujours pas réapparu en public. Victime, je vous le rappelle, vendredi d'une attaque au couteau. Selon la présidence, il est légèrement blessé. Il est en bonne santé, assuré dimanche Mahmoud Salim Hafi, le secrétaire général adjoint du gouvernement comorien. L'auteur des faits, c'est un jeune militaire de 24 ans. Il a été retrouvé mort samedi matin dans sa cellule, quelques heures après avoir été arrêté, sans que l'on ait pour l'instant d'explication. L'ancien vice-président du pays, Mohamed Ali Swali, l'un des opposants désormais à Azali Assoumani, souhaite réagir ce matin à cette attaque.
L'acte en lui-même est répréhensible, c'est regrettable, mais compte tenu de l'environnement, des tensions politiques, de malgouvernance économique, sociale, politique, il est évident que le climat qui prévaut actuellement aux Comores, on peut très bien comprendre des gestes comme celui-là, un acte comme celui-là. C'est en cela que moi j'explique ce geste répréhensible, mais un geste qui s'inscrit dans la logique d'un climat d'oppression et de répression du régime du colonel Azali Assoumani.
Voilà, l'attaque au couteau, geste répréhensible, mais dans un climat général d'oppression aux Comores. C'est ce que dit Mohamed Ali Swali au téléphone de Pierre Firsion. À Madagascar, les aspirants maires et conseillers municipaux ont une semaine de plus, jusqu'au 26 septembre, pour boucler leur dossier de candidature. C'est ce que déclare le rapporteur général de la CENI, l'instance électorale. Il l'a dit à RFI hier, la CENI qui attend encore pour cela le feu vert du gouvernement. Décision contrainte, dit aussi la CENI. On en parlait la semaine dernière sur notre antenne. Pour ces élections locales qui sont prévues le 11 décembre, seul un nombre infime de candidatures a pour l'instant été enregistré. On le fait le point à Tana avec Pauline Le Troquet.
Sur les près de 1700 communes que compte la Grande Île, seuls 79 dossiers de candidature ont été déposés, selon les dernières données connues par Souave Anjamaroutfik, rapporteur général de la CENI. De nombreuses communes se trouveront-elles sans candidat le 11 décembre prochain ? Oui, répond Erinina Ari Mossessi, le président de l'Observatoire de la vie publique de Madagascar, a dû lui-même renoncer à se présenter à la commune urbaine d'Antananarive. Il pointe des procédures administratives plus lourdes à surmonter cette année.
On ne facilite pas dépôt de dossier de la part des postulants. Malheureusement, dans ces conditions-là, il y aura un désert de candidature. Ça tend vers quelque chose qui ne soit pas du tout démocratique. En tout cas, ça ne fait pas avancer la démocratie dans ce pays.
D'autres maires relativisent la situation. C'est le cas de Parsou Andjaboulanarive, maire de la commune de Mertsiatousk.
Les hommes et les femmes politiques malgaches ont l'habitude de déposer leur candidature au dernier moment. Donc, je vous assure qu'il y aura des candidats avec toutes ces communes-là.
La CENI se veut quant à elle rassurante. Elle affirme que ce changement inévitable de calendrier n'affectera pas la date du scrutin. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
L'armée américaine annonce la fin officielle de son retrait du Niger. Il s'est déroulé sans complications. Le retrait des troupes américaines du Niger avait débuté en mai, hein, suite à la dénonciation par le gouvernement nigérien de l'accord de coopération militaire. En mars, Joe Biden en Afrique pour la fin de son mandat. La presse américaine révélait la semaine dernière un potentiel voyage prochainement en Angola. On apprend que Joe Biden va se rendre avant cela, et c'est officiel, en Égypte pour discuter des efforts de cesser le feu dans la bande de Gaza. Lui est rentré d'Allemagne dimanche, le président kényan William Ruto. Retour marqué par une polémique qui prend de l'ampleur au Kenya. Elle concerne l'accord de partenariat sur la migration et la mobilité signé ce week-end par William Ruto et le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon le chef de l'État kényan, ce texte devait sécuriser 250 000 emplois pour des jeunes diplômés kényans en Allemagne. Sauf que Gaël Lalex, Berlin, a rapidement démenti ce chiffre.
À peine William Ruto monte-t-il dans l'avion que le ministre de l'Intérieur allemand écrit sur X « L'accord entre l'Allemagne et le Kenya ne prévoit aucun chiffre ou quota de travailleurs qualifiés qui auront l'opportunité d'un emploi en Allemagne ». Un démenti cinglant pour le président kényan. C'est que l'exportation de la main-d'œuvre est une promesse de William Ruto. Au début de son mandat, il espérait permettre chaque semaine à 5000 jeunes kényans de quitter le pays pour travailler à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, l'opposant Ekuru Aukot affirme ne pas être surpris par le mensonge du président kényan. D'autres s'inquiètent des alinéas de l'accord passé avec l'Allemagne, car le texte prévoit également le rapatriement au Kenya des travailleurs non qualifiés et clandestins. Depuis le début de l'année, nous redoutons des déportations de l'Allemagne, explique Mudge Rolfe, fondatrice de Diaspora Network Hub, un réseau des Kenyans de l'étranger. Certains Kenyans en Allemagne nous écrivent déjà et demandent notre aide. Selon les autorités kenyanes, les premiers départs de travailleurs qualifiés pour l'Allemagne auront quant à eux lieu fin septembre. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Il était à Nairobi hier, le patron de la Confédération africaine de foot, la CAF. Le Sud-Africain Patrick Motsepe a visité les stades de Kasarani, de Niayo et celui en construction de Talanta. Il a ensuite participé au comité exécutif de l'instance fêtière du foot africain, qui en a profité pour révéler le calendrier du futur CHAN. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, une sorte de CAN, mais pour les joueurs locaux. Il se tiendra du 1er au 28 février. Au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, les trois pays qui, par ailleurs, sont désignés depuis quelques mois pour accueillir la CAN 2027. Patrick Motsepe tient à rappeler que le CHAN est aussi important que les autres.
Par le passé, certains pays faisaient le choix de ne pas participer au CHAN. Nous avons changé cela, parce qu'on ne peut pas dire « j'aime cette compétition, mais pas celle-là ». Il faut participer à toutes, même si les joueurs qui évoluent hors du continent ne sont pas là. C'est dans ces moments-là que nous devons permettre à nos joueurs africains les plus talentueux de dire à leurs entraîneurs « peut-être que je ne joue pas en Europe, mais je suis quand même aussi bon que n'importe quel joueur du monde ». Donc c'est aussi pour cela que j'ai augmenté la dotation de la récompense. Ces joueurs du CHAN sont les futurs vainqueurs de la CAN, et nous avons toujours déclaré ouvertement qu'une partie de notre plan réside dans la confiance que nous avons qu'un jour, un pays africain remportera la Coupe du Monde.
Et donc ce CHAN se tiendra du 1er au 28 février, Kenya, Tanzanie, Ouganda, 8e édition du CHAN qui sera toujours destinée aux footballeurs africains qui évoluent sur le continent, mais avec une restriction levée par rapport aux autres éditions, celle de jouer dans le championnat du pays dont on défend les couleurs. Radio France Internationale, Afrique Matin se poursuit pour encore un quart d'heure. La suite, c'est en Centrafrique avec ce plaidoyer pour le développement du secteur formel. L'Europe de l'Ouest, quant à elle, qui veut produire en partie son propre hélium, gaz particulièrement intéressant quand il s'agit de nouvelles technologies. Ce sera la chronique des matières premières. Elle raconte sa vie, sa famille, elle parle beaucoup, seule face à son téléphone, et cela plaît apparemment. Portrait d'une influenceuse de Mayotte dans le journal de nos confrères de La Première. Rendez-vous dans 10 minutes. On déroule tout cela après le grand format de la rédaction Afrique.
RFI.
Oui, on poursuit ce matin ces rencontres avec des pièces historiques, œuvres d'artisans, artistes. Hier en RDC, avec le masque Moanapo et son importance dans l'initiation des jeunes, dans le passage à l'âge adulte. Ce matin en Tunisie, pour une histoire aussi de passage, de transmission. On parle d'une statue, celle d'un papa, le père de la nation, père de l'indépendance tunisienne, Habib Bourguiba. Amira Sulem nous la conte.
Juché sur un cheval, Bourguiba, revenu en héros de son exil français en 1955, parcourt Tunis et fend la foule qui l'acclame et le réclame. Leader à l'égo surdimensionné, il exige qu'une statue à son effigie rende hommage à ce moment. Ce sera chose faite en 1978. En haut de l'avenue Bourguiba, ça ne s'invente pas.
Voilà, au fond de l'avenue, il y avait autrefois la statue de Jules Ferry durant la colonisation. Bourguiba s'était fait un point d'honneur de remplacer cette statue par une effigie, le représentant lui-même.
L'histoire de cette statue, Hichem Ben Ammar, réalisateur, y a consacré tout un film. Déboulonnée en 1988 à la demande de Ben Ali qui vient de réaliser un coup d'État contre le leader suprême, la statue, pied de nez au despote, retrouvera son emplacement en 2016 dans le sillage de la révolution tunisienne. Le documentariste tunisien a pu rencontrer Hechmi Marzouk, l'artisan qui a donné vie puis restauré la statue.
J'ai participé à un concours international. Le jury a délibéré sans voir les noms des artistes. Ils ont demandé au président Bourguiba de faire son choix, sans rien savoir de nous, et c'est moi qui l'a choisi. Quand ils lui ont dit que j'étais tunisien, il a dit « J'en étais sûr, seul un Tunisien pouvait saisir aussi bien ma personnalité et mon caractère. »
À la faveur du retour de la statue au centre de Tunis, la caméra de Hichem Ben Ammar capte de vifs échanges entre Tunisiens.
Vive Bourguiba ! Yahya Bourguiba !
Bourguiba en Tunisie, soit on l'adore, soit on le déteste.
Justement, parce que c'est une figure paternelle. Donc, elle ne peut faire l'objet que de l'adoration. Quand elle fait objet d'adoration, elle ne peut faire l'objet de détestation quand il s'agit de détestation. On n'est pas encore en mesure de filtrer. L'inscription du message de Bourguiba dans l'histoire ne peut se faire qu'à travers une critique de sa politique. Chose qui n'a pas encore eu lieu.
Alors que la Tunisie vit à nouveau au rythme des manifestations, Bourguiba, juché sur sa monture, continue d'observer le destin de son peuple s'écrire sous ses yeux. Amira Sulem, Tunis, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
La une de l'actualité internationale de ce mardi. Les États-Unis, le suspect soupçonné dans une tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump dimanche, arrêté donc sans avoir ouvert le feu, selon les enquêteurs. Il a été présenté hier à un juge, Ryan Wesley Ruff, américain pro-ukrainien de 58 ans, inculpé de détention illégale d'armes en raison de son casier judiciaire et de possession d'une arme au numéro de série effacé. Un nouvel objectif de guerre pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou annonce que le retour des dizaines de milliers d'habitants du nord d'Israël dans la zone frontalière avec le Liban sont désormais un objectif de guerre. Donc, en Iran, première conférence de presse du nouveau président, au jour du deuxième anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini, c'était hier. Le président Pezeshkian a notamment promis de faire en sorte que la police des mœurs, je cite, ne dérange pas les femmes ne portant pas le voile obligatoire en public. L'Afrique à la recherche de ses PME, ses petites et moyennes entreprises. On a entendu hier comment trouver des financements hors du système bancaire classique. Et vous réécoutez ce dossier Afrique Echo à tout moment d'ailleurs sur notre application RFI Pure Radio. Ces soucis de financement font que les entreprises de petite taille ont du mal à décoller. Pour beaucoup d'ailleurs, elles demeurent dans le secteur informel. En République centrafricaine, un syndicat de patrons plaide en leur faveur. Il s'agit du JICA, le groupement interprofessionnel de Centrafrique, dont l'un des responsables s'est confié à Charlotte Cosset.
Encourager les petites et moyennes entreprises, voici l'un des objectifs que s'est donné le JICA, l'une des deux associations patronales du pays qui compte une cinquantaine de membres. Pour lui, le développement économique de la Centrafrique passera par les PME. Jonathan Nouganga, trésorier général de l'organisation, il s'en fait le porte-parole.
Le seul vecteur de croissance pour nous, ce sont les PME. Je prends un exemple des entreprises de téléphonie mobile. Leur vecteur de croissance n'est peut-être que sur des services à valeur ajoutée. Mais en termes d'abonnement ou d'abonnés, ils ne pourront pas croître beaucoup plus d'une année sur l'autre. Par contre, une PME peut facilement doubler, tripler son chiffre d'affaires selon qu'elle obtient des marchés, selon qu'elle se formalise, selon qu'elle soit pérenne dans le temps. Bien entendu, il y a un patriotisme. Plus il y a d'entreprises, plus le tissu économique est formel et important, plus on peut avoir un développement important, plus on donne les moyens au gouvernement de pouvoir réaliser ses objectifs et de réaliser les investissements structurels nécessaires. Pour cela, il faut un secteur privé fort et surtout formalisé.
Pour cela, le JICA travaille surtout à faire entendre la voix des entrepreneurs.
On se dit que plus on est nombreux à se connaître, plus on est nombreux à partager les mêmes problématiques, mieux on pourra trouver de solutions. Et le JICA aussi en représentant au niveau du guichet unique de formalité des entreprises. Donc on remonte les problématiques ou les problématiques de ces administrations aussi nous sont remontées. Donc on essaye d'être une plateforme de discussion. On croit au dialogue public-privé. On croit que le JICA peut contribuer au plaidoyer de toutes ces petites PME.
Des problématiques dont les autorités se disent être bien conscientes. Jean-Baptiste Koba, ministre conseiller aux investissements de la présidence.
Motiver les investissements, c'est rassurer et créer un climat des affaires pro-business et qui puisse redonner confiance donc à une communauté d'investisseurs qui très souvent préfère investir dans d'autres pays où le cadre est effectivement plus favorable. C'est le cadre des affaires en Centrafrique, l'environnement des affaires qu'il nous faut impérativement améliorer. Nous devons rassurer la communauté des investisseurs sur le plan judiciaire. Nous voulons plus de quiétude, plus de sécurité dans le respect des contrats, dans les procédures, par exemple, de licenciement.
Une loi sur le climat des affaires attend depuis plusieurs années d'être votée à l'Assemblée nationale. Dans un récent mémorandum, le JICA souligne également les défis structurels rencontrés par les entrepreneurs, la disponibilité et le coût du carburant, les questions énergétiques de manière générale et la qualité des infrastructures.
Charlotte Cosset pour le dossier Afrique Éco du jour. Les matières premières ce matin sur un gaz qui peut vous servir si vous fêtez un anniversaire ou si vous prévoyez un voyage dans l'espace. Je vous l'accorde, c'est pas exactement le même prix. On parle de l'hélium. On peut gonfler des ballons avec, d'où l'anniversaire. Mais c'est surtout l'un des éléments essentiels de la transition énergétique, des nouvelles technologies, de l'exploration spatiale même. Un gaz dont l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements. Un projet pilote de production locale d'hélium vient d'être lancé. Marie-Pierre Olfond.
C'est peut-être le début de la fin d'une dépendance totale de l'Europe de l'Ouest aux importations d'hélium. Car jusqu'à aujourd'hui, tout le gaz consommé y est importé. Un gaz qui vient essentiellement du Qatar, de l'Algérie et des États-Unis, ce qui sous-entend une logistique complexe. L'hélium est très volatile et doit être liquéfié à 269 degrés pour être transporté, puis reliquéfié pour être utilisé. Produire localement permet de transporter l'hélium à l'état gazeux, ce qui réduit aussi considérablement son coût. L'usine pilote inaugurée la semaine dernière en France au sud de Paris n'est qu'un premier pas. Elle doit permettre de valider la faisabilité technologique et économique d'une production sur le long terme. Mais le gisement exploité par la start-up française 458 Energy pourrait fournir d'ici 2028 15% des besoins de la France. La nouvelle offre française, bientôt doublée d'une production en Allemagne également, permettra de répondre aux besoins croissants du secteur. L'hélium n'en en effet, pas de substitut satisfaisant et reste incontournable dans l'univers des technologies de pointe, que ce soit dans l'imagerie médicale, l'aérospatiale ou les semi-conducteurs. Ce dernier secteur est en pleine expansion et absorbe aujourd'hui un quart de l'hélium consommé. Au total, d'ici 2035, la demande en hélium, quelle que soit son utilisation, pourrait quasiment doubler. Le problème reste que l'hyperconcentration de l'offre mondiale fait peser un risque de rupture d'approvisionnement et que ce risque est encore plus problématique au vu de la demande qui se profile. C'est une des raisons d'ailleurs qui a poussé l'UE à exiger que 10% de l'hélium consommé en Europe soit produit par les États membres d'ici la fin de la décennie.
Marie-Pierre Olfand, il est l'heure de rejoindre nos confrères de la première. Sur l'île de la Réunion, la fermeture définitive mais attendue d'une association à vocation sociale. C'est à la une de votre journal. Bonjour Tessa Gourman.
Bonjour. La Croix Marine, organisation chargée de la tutelle de 1500 majeurs protégés à La Réunion, sera bientôt liquidée. La demande a été déposée devant le tribunal hier. Elle a perdu son agrément depuis mai dernier en raison d'une série de dysfonctionnements et les bénéficiaires ont été pris en charge par d'autres organismes. La CFDT Santé avait demandé la mise en place d'un plan social, Antoine Garnier.
La CFDT Santé demande aux services de l'État de les accompagner après la liquidation.
et s'inquiète aussi pour les 1500 majeurs protégés dont la curatelle ou la tutelle était confiée jusqu'au mois de mai à la Croix-Marine. Yannick Gallet est le secrétaire général de la branche associative du syndicat.
Un combat pour les 1500 personnes, et je dis bien personnes et non dossiers. Ce n'est pas des numéros, il y a des personnes, des hommes et des femmes en situation de handicap pour la plupart, qui sont donc sous tutelle et qui souffrent de cette histoire aussi.
Quasiment toutes ces personnes ont été confiées à d'autres services tutélaires. Mais dans quelles conditions, s'interroge la CFDT, qui explique que tous les acteurs du secteur sont débordés.
3 étudiants de l'université de Mayotte, destinés au métier de l'enseignement, vont embarquer sur le Marion Dufresne, le navire qui parcourt les terres françaises de l'océan Indien. Ils vont participer à une mission scientifique de surveillance du volcan sous-marin situé au large de Mayotte. Emmanuel Corse, maître de conférence en biologie marine à l'université, explique l'objectif de leur mission.
Durant 3 semaines et demie, depuis la Réunion, ils vont embarquer sur le Marion Dufresne et vont donc participer aux différentes manipulations. L'un des objectifs annexes qu'auront à mener les étudiants sera d'acquérir de la connaissance pour ensuite imaginer la mise en place d'outils pédagogiques pour pouvoir parler du volcan sur le territoire à Mayotte et notamment pour pouvoir le partager au sein de leur promotion de formation, pour pouvoir ensuite qu'un maximum d'enseignants puissent parler de ce volcan qui est largement méconnu.
Propos recueillis par Laurent Damiron, Mayotte, la première. Près de 50 policiers sont arrivés à Mayotte hier. Il s'agit principalement de mutations. La plupart va constituer une unité spéciale dédiée aux interpellations dans les villages. Les autres intégreront le service de police aux frontières. Ils sont créateurs de contenu ou influenceurs. Ils sont mahorais et ils ont beaucoup de followers. Shafika Salimoukou a rencontré 2 d'entre eux.
Sa vraie identité, Anaïs Chabouane. Sur les réseaux sociaux, c'est Golden Woman Off, une jeune femme pétillante et dynamique de 27 ans qui, il y a presque 10 ans, s'est fait connaître en postant de courtes vidéos de son quotidien.
Donc je faisais des petites vidéos sur Facebook, ça fonctionnait très très bien, les gens ils ont accroché tout de suite, je parlais toute seule. J'avais l'impression que j'étais une folle, mais bon, ça a marché, les gens ils ont accroché. Et puis je me suis rendu compte que les gens ils aimaient beaucoup quand je partageais des moments forts avec ma famille, etc.
En voyant son nombre d'abonnés grimper significativement, Golden prend la décision de prendre au sérieux son rôle sur les réseaux sociaux, en plus de son métier au sein d'une banque.
Donc le jour où j'ai vraiment vu l'ampleur des vidéos, du truc, c'est quand j'étais avec mon père. Mon nombre d'abonnés avait triplé et que les gens réclamaient constamment. Et puis même quand je voyais dehors toutes les jeunes filles qui me courent dans les bras ou qui veulent absolument faire des photos et tout, enfin je me suis dit, en fait, c'est vraiment sérieux, c'est réel, c'est pas que sur les réseaux sociaux.
Elinem, lui, 28 ans, est complètement axé sur les vidéos comiques, fier de pouvoir vivre de son art. Il est conscient de l'impact de son image et de l'influence qu'il peut avoir auprès de son public très large.
Être dans les réseaux sociaux, on peut aussi te contacter par des entreprises, des gens pour faire la promotion de leur événement ou de leur marque. On peut facilement gagner sa vie sur les réseaux sociaux.
Alors que Golden s'appuie énormément sur sa famille pour avancer, Elinem, lui, mise sur toute une bande de copains qui jouent à ses côtés. Car comme on dit, plus on est de fous, plus on rit.
Shafika Salimoukou de Mayotte la première. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Tessa Groman de La Première. À la une du prochain journal Afrique sur RFI, dans une demi-heure, la visite du monsieur casque bleu de l'ONU en RDC et puis le prix du sucre qui bondit au Burundi. On vous explique tout cela avec Xavier Besson dans une demi-heure, donc sur RFI. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour à vous Vincent Dublanc.
RFI Matin, c'est parti, on parle encore beaucoup des États-Unis.
Évidemment, puisque Donald Trump accuse le président sortant Joe Biden et son adversaire démocrate d'être à l'origine de cette nouvelle tentative d'assassinat présumée qui a eu lieu dimanche. Je vous rappelle que le suspect a été arrêté, il n'a pas ouvert le feu. On fera le point dès le début du prochain journal, le journal que vous présente Jeanne Bartoli dans une minute. RFI Matin, c'est jusqu'à 10h.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Un an après sa création par les militaires au pouvoir au Mali, Niger et Burkina Faso, l'alliance des États du Sahel vous semble-t-elle crédible? Coopération sécuritaire, projet commun de développement économique et social, quel bilan dressez-vous? Appelez-nous.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Que révèle le Pompéi marin?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Il y a 515 millions d'années, une éruption volcanique a figé pour l'éternité tout un écosystème d'organismes marins. Pourquoi cette découverte exceptionnelle du géologue Abderrazak El Albani ouvre une nouvelle fenêtre sur l'histoire de la vie ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.